Et bonjour à tous les auditeurs, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Sporttime, notre première émission avec toute l'équipe. Je suis avec Anthony. Anthony, tu vas bien?
Oui, bonjour.
Kylian, tu vas bien?
Oui, je vais bien, et vous?
Et Nolan, vous allez bien?
Ça va super, et toi?
Ça va très bien. Pour cette première partie d'émission, dans cette partie, nous allons parler du cyclisme, du dopage et de MMA. Kylian, de quoi tu veux nous parler?
Je vais vous parler du dopage dans le sport. Le dopage s'est développé à mesure que les disciplines sportives devenaient professionnelles. En Europe, trois disciplines sont particulièrement exposées au dopage. Le cyclisme, le football et le tennis.
Pourquoi les sportifs se dopent-ils?
Ils se dopent car ils sont obligés de trouver des moyens de tenir physiquement et moralement. Le sportif doit gagner et la pression du club et des autres sportifs est très importante. Le rapport de synthèse sur le dopage et les pratiques sportives du CNRS donne 6 raisons de se doper. Accroître le potentiel aérobie, augmenter l'oxygénation des muscles, augmenter la puissance musculaire, diminuer la sensation de fatigue, opérer des modifications morphologiques, lutter contre le stress, masquer la prise de médicaments en diluant les urines.
Quand apparaît-il?
Le début du dopage nous vient de l'Antiquité où les Grecs furent les premiers à utiliser des méthodes de type pharmacologique. Les lanceurs et le boxeur se nourrissaient que de taureaux car ils pensaient avoir plus de force. Quelques jours avant les épreuves olympiques, les sauteurs, quant à eux, avaient recours à la viande de chèvre dans l'espoir de sauter plus haut. Les lutteurs préféraient une viande plus grasse comme celle du porc.
Ah oui, quand même! Ça existe depuis longtemps?
Oui, ailleurs, le dopage s'est amélioré au fil du temps. En 1960, année amphétamine, de 60 à 70, année anabolisant, de 70 à 80, essai de drogue dure comme la cocaïne, en 1980... polotoxicomanie, en 1990, année testostérone. De 1990 à 2000, l'érythropoïtine, autrement appelée EPO. L'EPO sert à augmenter le nombre de globules rouges dans le sang. Ce type de dopage peut engendrer des AVC et des crises cardiaques. Le dopage est surtout utilisé quand il y a des compétitions. On doit toujours être au-dessus de tout le monde, donc on repousse nos limites et on se dope. C'est comme dans la vie de tous les jours quand on boit du café ou du Red Bull. C'est du dopage, on l'utilise pour tenir, donc il ne faut pas trop les juger durement.
Merci Kylian, j'ai appris des choses sur le dopage. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer sur le sujet suivant avec Anthony qui va nous parler du cyclisme. Petite question aussi Anthony, il n'y a pas du dopage dans le cyclisme?
Ouais, il y en a un peu, ouais.
Ok. Tu vas nous parler plus de quoi?
Je vais parler du cyclisme et du calendrier. Chaque année, un calendrier de courses appelé calendrier UCI World Tour est mis en place avec différentes courses et différentes classes. Par exemple, pour les courses d'un jour d'un classe Pro Tour ou calendrier historique sont supérieures à une classe 1HC ou supérieure à 1.1 ou 1.2. Pareil pour les courses à étapes, une 2HC est supérieure à une 2.1 et à 2.2. Vous arrivez à suivre? Sinon, il existe également les championnats du monde, CM et nationaux CN, des courses nationales NE et des kermesses ou critérium. Qu'est-ce qu'un critérium? Le critérium est un type de course cycliste sur route d'un jour se déroulant souvent en centre-ville sur un circuit de 800 mètres à 10 km pour une distance maximale de 150 km. Selon le règlement de l'Union cycliste internationale, mais pas toutes les courses sont possibles pour les différentes équipes car dans le cyclisme il y a trois classes qui sont continentales attribuées aux plus petites équipes qui comptent 8 à 16 coureurs professionnels ou pas, des catégories élites ou moins de 23 ans. Elle peut compter un maximum de 4 coureurs supplémentaires spécialisés dans d'autres disciplines, à condition que ces coureurs aient figuré parmi les 150 premiers du classement final UCI de leur discipline lors de la saison précédente. La majorité des coureurs doit avoir moins de 28 ans. Celle-ci pourra participer à moins de courses que les classes continentales pro et les World Tour. Il y a aussi la classe continentale pro, dont 25 équipes appartenant à cette catégorie sont enregistrées par l'UCI, l'Union Cycliste Internationale. Elle peut participer aux compétitions des circuits continentaux et du calendrier historique, et être invitée au Tour de France et aux épreuves de l'UCI Pro Tour, à condition de disposer du label Wildcard. Puis, les équipes World Tour, dont au maximum 18 équipes professionnelles possèdent une licence UCI World Tour, et sont appelées World Team. Ce statut leur donne l'assurance et l'obligation de participer aux épreuves du circuit. Moi, personnellement, j'aime bien le Tour de France. Toutes ces courses amènent à des objectifs pour les différentes équipes du peloton professionnel. Comme les courses à étapes, les classiques ainsi que les championnats nationaux et du monde ont même figuré dans les premiers du classement mondial UCI. le classement mondial UCI World Ranking en anglais et un classement utilisé par l'Union Cycliste Internationale depuis le 10 janvier 2016. Celui-ci sert à classer les coureurs cyclistes sur route masculin. Il s'appuie sur les résultats des 52 dernières semaines selon un barème précis et prend en compte l'ensemble des courses du calendrier international route UCI. Un classement par pays est également créé en 2016, puis un classement par équipe en 2019. J'espère quand même que ce sujet vous a intéressé et que vous avez appris des choses. Merci.
Moi, j'avais juste une question pour toi, Anthony. Pourquoi on les appelle les coureurs ?
C'est un terme utilisé dans le cyclisme.
Ah, ok, d'accord.
Et ok, et aussi promis dans le premier paragraphe, là, c'est-à-dire quoi ? 1.1, 1.2 ?
C'est les différentes courses.
Ok. Mais merci, Anthony, de ces informations sur le cyclisme, parce que je ne savais pas par rapport au cyclisme. Voilà. Et c'est la dernière chronique avant une petite pause musicale avec Nolan. De quoi tu vas nous parler, Nolan ?
Je vais vous parler du MMA.
Ah ben c'est parti.
Alors, le MMA est un sport de combat qui se déroule dans un octogone appelé cage. Les règles sont, le combat doit se terminer par un KO, un abonnant 3 fois 5 minutes, la suite se fait par décision des juges. Il est interdit de mettre des coups de genoux et pieds au sol, des coups dans les parties génitales et de mettre les doigts dans les yeux de son adversaire. Le matériel se limite à un protège-dents, des gants mitaines très légers, une coquille et un short. C'est un sport récent, ce sport qui enveloppe de nombreuses pratiques, d'où son nom, Mixed Martial Art. Il permet de désigner le meilleur combattant de n'importe quelle discipline, il suffit de gagner le fameux combat libre. Le MMA est plus connu sous le nom de Free Fight. C'est un sport avec une mauvaise réputation aux yeux du public, mais le MMA est moins dangereux que la boxe anglaise, le hockey et le football américain, selon Olivier Coste, qui est médecin du sport. Il a dit aussi que ce sport est visuellement plus dangereux qu'il ne l'est vraiment. En se basant sur une étude scientifique de Yann Ramirez, qui est jeune docteur en sociologie, on peut également tomber sur des études médicales selon lesquelles le MMA est plus risqué. Le plus risqué, il est également des statistiques qui évaluent ce sport comme ultra dangereux.
Ne stresse pas.
Le MMA est non légalisé en France. Les grandes organisations de ce sport se déroulent aux États-Unis, à Las Vegas plus précisément, ou en Russie. Le reste, on n'entend pas énormément parler. La rémunération de ce sport est assez importante. Les chiffres ne sont pas les mêmes pour chaque combattant selon leur grade et selon leur popularité. Mais son chiffre est beaucoup moins important que la boxe anglaise, car ce sport n'est pas médiatisé autant. La boxe anglaise est connue dans le monde entier, mais le MMA est un sport récent et en développement dans le monde entier. Pour ma part, je trouve ce sport incroyable. C'est un sport complet. Lorsque vous êtes dans cet octogone, vous avez tous les sentiments du monde. De l'adrénaline plein le corps, et lorsque le combat commence, vous êtes déconnecté littéralement avec un seul objectif, c'est de gagner. Et lorsque cet objectif est atteint, vous êtes le plus heureux. Bref, pour moi, ce sport est le meilleur sport. Il apporte tout ce dont on a besoin. Hygiène de vie, joie, peur, stress, et j'en passe. Il est tout simplement complet. C'était Nolan Naro pour le MMA.
Merci Nelly. Merci Nolan pour...
Mes informations.
Voilà, les informations et pour tes connaissances sur la MMA. Et vraiment, les gars, merci les gars pour toutes ces informations. J'espère que nos auditeurs ont appris des choses. En tout cas, moi, oui, on se retrouve après une petite pause musicale et on reparlera du sport tout de suite après.
Moi, je suis grillé ou quoi ? Donc, je parle à une meuf. Ceci, cela, tu fais ci, t'as plein de meufs, on t'a vu là, je connais elle, wesh. Scarpe. Elle me regarde de haut en bas. Elle me dit arrête de me prendre pour un imbécile. Je dois rejoindre mes copines, on s'en va. Je lui dis attends un peu, laisse-moi ton code, puis on se revoit. Elle me répond que de toute façon, négro comme moi ne l'intéresse pas. Qu'un gars comme moi l'utilisera, lui fera la misère et la délaissera. Je ne comprends pas pourquoi elle me dit ça. Je vais pas lui faire la DSK. J'ai même pas la gueule de l'emploi. Laisse-moi te prouver le contraire. Donne-moi l'heure et l'endroit. Comment je vais faire pour qu'elle oublie tous mes travers. Bisous, ta doise et mon univers. Si le monde est à moi, le monde est à nous. Les autres en face sont jaloux. T'es pas bonne si t'as pas de tête. T'as wallou. Mon petit cœur tombe en panne sèche. Mais en dehors de ça.
Nous venons d'écouter Booba. Il y a eu des changements, nous sommes maintenant avec Mika.
Bonjour.
Et Kevin, bon Kevin n'est pas là donc ça sera Mika qui va faire la chronique de Kevin. Du coup, ben, comment tu vas, Mika?
Ça va et toi?
Ça va très bien. Du coup, tu vas nous parler de quoi, Mika?
Du foot.
Ben, nous t'écoutons. Vas-y.
Alors bonjour, on va parler des sports dangereux d'ailleurs. Vous parlez de sports de combat comme le MMA, où les joueurs se battent, se font des petites fractures pour emporter la victoire. Mais le foot est aussi dangereux, il arrive que les supporters se jettent des projectiles et se tuent. Le drame le plus connu, le drame du Heysel, à l'époque les stades n'étaient pas encore sécurisés. Le drame du Heysel s'est produit le 29 mai en 1985 à Bruxelles, à l'occasion de la finale de la Coupe d'Euro des clubs champions entre le FC Liverpool et la Juventus Turin. Ce jour-là, les excès de hooligans anglais, la vétusté du stade et la désorganisation du service de sécurité belge ont causé 39 morts et plus de 450 blessés, en grande majorité italiennes, écrasées ou piétinées contre le sol ou des grillages. Des chiffres glaçants, mais aussi des images choquantes. Une équipe de télévision suisse a filmé les événements en direct, qui font cette tragédie l'une des plus traumatisantes de l'histoire du football. D'ailleurs, on parle de sécurité. Il y avait énormément de supporters, plus de 60 000 personnes qui ont assisté à la finale dans l'enceinte du stade du Heysel. Les conditions de sécurité et de confort sont mauvaises, en raison de nombreuses failles dans le système, le contrôle. Plusieurs milliers de fans sans billets ont transformé l'enceinte en boîte de sardines. Les supporters sont très excités par ce match d'importance et vers 19h10, plus d'une heure avant le début de la rencontre, ils commencent à s'insulter et à se jeter des projectiles divers, jusqu'à ce que les fans de Liverpool changent de direction des gradins du bloc Z qui devraient être occupés par des Belges. Mais où se trouvent nombreux de supporters italiens, la majorité gendarmes, est à l'extérieur et les empêche de passer. Face à cette invasion, les supporters belges reculent vers les autres extrémités de la tribune mais ne peuvent pas quitter le stade car en bas des gradins, des portes donnant accès à la pelouse sont fermées. Le piège est en place, les grilles de séparation et un muret s'effondrent, des dizaines de personnes sont piétinées et le bilan est lourd. 39 morts au total, donc 32 Italiens, 4 Belges, 2 Français et 1 Néerlandais, et plus de 454 blessés. Le drame terrible, pourtant le match a lieu car les autorités craignent qu'une annulation enflamme la violence. Ils donnent la victoire des Italiens grâce au but de Platini.
Maintenant, je pense que c'est fini. Merci Mika de toutes ces informations au foot. Merci les gars d'avoir passé des informations dans le sport. Merci à Kylian, Nolan, Anthony et Mika.
De rien.
De rien.
Moi aussi, c'est vrai, vous êtes toujours là, c'est vrai. On se retrouve à la prochaine mission, donc ciao l'équipe.
Respecting me long, long reign, they making plot to take down me name. I've been breaking down walls ever since I was small. They could stand up tall and strong like a wrecking ball. I would knock them down. They say that I carry too long, forgetting that the constitution is strong. Instead of respecting me long, long reign, they making plot to take down me name.